Bienvenue au Centre Pompidou. Ce soir, la Bibliothèque publique d'information est heureuse de vous accueillir pour une table ronde consacrée aux représentations du bonheur. Alors, je laisse tout de suite la parole à Adèle Van Rett, qui va être la modératrice de cette soirée.
Merci, bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, je crois que le micro fonctionne. Merci d'être venus nombreux ce soir, malgré les vacances scolaires, pour nous écouter parler du bonheur et de la mise en scène du bonheur, puisque vous verrez que déjà, si à la question « êtes-vous heureux ?», il est rare d'avoir une réponse claire et précise et définitive. Alors la question de savoir qu'est-ce que le bonheur est encore plus difficile. Et généralement, les premières réponses qui peuvent venir sont des réponses d'exemple, de mise en scène, justement. La question sera donc de savoir ce qu'il reste du bonheur sans cette mise en scène. Est-ce qu'on peut évaluer? Est-ce qu'il y a des critères à l'aune desquels on peut juger et définir ce que serait le bonheur? Et déjà, ce qui présupposerait qu'il y ait un bonheur, disons, objectif. Ça, on va le voir. Et puis aussi, le décalage entre une appréciation subjective, je suis heureux, donc j'ai ma définition du bonheur, et ce qui serait plus de l'ordre d'une forme d'injonction collective ou qui nous demanderait d'être heureux. Et toute cette tension entre les deux nous donnera largement à penser ce soir en compagnie de mes deux invités que je suis très heureuse d'accueillir ce soir. Donc à ma gauche se trouve Giuseppina Sapio, bonsoir à vous. Vous êtes chercheuse en études cinématographiques et audiovisuelles auprès de la Sorbonne Nouvelle, donc vous travaillez à la fois à l'IRCAV, à l'Institut de Recherche Cinématographique Audiovisuelle et à Sorbonne 3, et vous travaillez sur les home movies. Vous nous direz tout à l'heure pourquoi vous appelez pas ça les films de famille. Il y a une bonne raison, c'est pas juste un anglicisme gratuit. Et à ma droite, Rémi Pavin, bonsoir à vous. Vous êtes docteur en histoire contemporaine à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, professeur agrégé d'histoire-géographie et l'auteur de cet excellent ouvrage intitulé « Histoire du bonheur en France depuis 1945 », paru aux éditions Robert Laffont il y a quelques mois, et avec lequel nous allons commencer, puisque dans cet ouvrage se trouve un texte au début du chapitre 7 de l'ouvrage, qui s'intitule « Les constructions du bonheur et le bien-être subjectif ». Vous citez un texte qui, à mon sens, pose bien les termes du débat, de la discussion que nous allons avoir ce soir. Donc je vous propose de vous le lire pour commencer, puis vous allez nous expliquer ensuite pourquoi l'avoir choisi. Suis-je heureux? Question mal posée. Oui, je suis heureux. Je mange toujours à ma faim, je suis bien habillé et je vis encore libre dans un pays pas encore trop fasciste. Je peux pratiquer librement ma religion qui me plaît. C'est le catholicisme, mais parce que j'ai la flemme de changer. Mes goûts me portent vers la religion réformée. Non, je ne suis pas heureux. Une organisation sociale stupide et décadente m'empêche d'épouser tout de suite la fille que j'aime et m'oblige à l'attendre de longues années, à la voir se dessécher sur pied. Un Allemand commande à l'armée à laquelle je vais bientôt donner 24 à 30 mois de mon temps. Je suis obligée de me priver du superflu. Et encore, d'une part de superflu. Je pense qu'il est normal, humain, de désirer, confusément et sans aucun espoir, conduire une Alfa Romeo Sprint, voyager aux îles sous le vent, avoir une piscine dallée de marbre quelque part dans les Keys de Floride et une bibliothèque d'édition originale une bibliothèque d'édition originale reliée en plein marocain. Mais le fait de rouler en Aronde, de passer quelques jours par an en Provence et 8 jours dans un petit village espagnol, d'avoir une petite bibliothèque, m'apparaît déjà comme un tel luxe que je ne suis pas loin de me trouver comblée. Il est très rare que j'éprouve un sentiment de privation durable. Au fond, une seule chose me manque, et surtout m'a manqué dans les années précédentes, une chambre pour moi, qui serait mon domaine. Je couche dans une pièce vaste et agréable, mais où toute la famille doit avoir accès à tout moment. Alors cette lettre est écrite par un ouvrier, c'est vous qui le présentez ainsi. Alors c'est étonnant de voir que à la réponse donc « suis-je heureux ?», il répond à la fois oui et non. Et pour essayer de se décider quand même, il fait la liste de tous les biens matériels qu'il a et qu'il souhaiterait pour finalement aboutir à ce qui lui manque vraiment, qui est une définition pour le coup à la fois très intime et matérielle, qui est tout simplement une chambre pour lui. C'est-à-dire qu'il en revient à une dimension vraiment subjective du bonheur, Rémi Pavin.
Bonjour tout d'abord. Oui, moi j'ai sélectionné, comme vous me posiez la question, ce texte parce que Dans cette lettre, en fait, cet ouvrier, donc ajusteur, écrit à l'Express, puisque l'Express a, en 1957, lancé une enquête pour essayer justement de mieux préciser ce que pourrait être le bonheur, les définitions à la fois subjectives et objectives, et voir s'il y a des recoupements. Et c'est l'une des lettres dans lesquelles les développements sont les plus étoffés. Cet ouvrier, finalement, il est lancé dans un processus subjectif d'appréciation de son bonheur, hein, il pose la question, oui, alors il se retourne un petit peu derrière lui et il essaye de voir ce qu'il a. Et il compare ce qu'il a à ce qu'il pourrait imaginer de mieux, donc les keys de Floride, la vie d'un riche milliardaire avec une belle bibliothèque, une Alfa Romeo Sprint, et puis finalement, il se dit que ce que j'ai, c'est pas si mal. Et j'ai trouvé que ce raisonnement, qui n'est pas représentatif, hein, qui est tout à fait singulier, hein, cet ouvrier, on voit bien qu'il est capable de richement verbaliser ses émotions, il développe quand même quelque chose d'assez précis, hein, ne serait-ce même qu'en plus, alors on n'a pas la lettre originale, puisque moi j'ai trouvé le document publié par l'Express, mais on peut imaginer, en tout cas sa manière d'écrire est quand même assez cultivée, mais malgré cette singularité, ou peut-être même grâce à cette singularité, on peut rentrer justement dans les processus subjectifs par lesquels les gens vont essayer de se construire leur bonheur. Et on peut bien voir ce qui les intéresse, c'est-à-dire à la fois des éléments matériels, mais aussi des éléments relationnels. Il parle de sa femme, c'est quand même quelque chose d'important. Et puis des ingrédients aussi politiques, hein, le fait d'habiter dans un pays pas trop fasciste, par exemple.
Et alors ça, c'est la manière dont vous procédez pour faire cette histoire du bonheur en France, c'est-à-dire à partir de témoignages subjectifs pour essayer de saisir les différentes façons qu'ont les personnes d'exprimer leur rapport au bonheur à travers les âges, c'est depuis 1945, mais vous montrez aussi qu'il y a cette histoire du bonheur ne peut pas se faire sans la prise en compte de dimensions, disons de critères extérieurs, qui ne sont pas de l'ordre de l'appréciation subjective, suis-je heureux ou non, mais comment le bonheur est-il défini à une époque donnée. Et cette définition a beaucoup évolué depuis 1945.
Oui, la définition a beaucoup évolué. Alors, en fait, votre question se décompose en deux parties. Alors d'abord, il y a à partir de quoi j'ai travaillé. En fait, dans ce travail, je m'intéresse à la fois aux différents discours qu'on peut circuler sur le bonheur, aux idées du bonheur. Et donc, pour saisir les discours, j'ai utilisé à la fois des ouvrages publiés. En fait, l'ensemble des ouvrages dont le titre comporte soit bonheur, soit un des termes du champ sémantique afférent au bonheur, donc joie, plaisir, béatitude, contentement, satisfaction, euphorie, etc. Il y en a une quinzaine. Et à partir du dépôt légal qui enregistre tous les ouvrages publiés en France, j'ai sélectionné environ 11 000 ouvrages dont le titre comporte donc un des termes, soit bonheur, soit un des autres termes. J'ai soumis ce corpus à un traitement statistique pour essayer de voir de quoi on parlait. J'ai analysé dans ce corpus environ 300 ou 400 ouvrages précisément pour voir qualitativement ce qui était développé comme conception du bonheur. Bon, alors ce premier corpus était intéressant, mais il ne permettait pas de vraiment apprécier l'influence des différentes idées. Parce que dans mes ouvrages, j'en avais qui étaient à compte d'auteur, donc diffusés de manière extrêmement confidentielle, et puis j'en avais des plus connus. Mais ce n'est pas les ouvrages les plus connus du temps. Donc pour apprécier l'influence des différents types de discours, j'ai utilisé le cinéma à succès. Donc j'ai sélectionné parmi les 20 films les plus vus de l'année, environ 7 films par an, dans la période qui m'intéresse. Donc moi, dans ma thèse, j'ai travaillé sur 45-81, et puis pour le livre, j'ai prolongé jusqu'à nos jours. Hein. Et grâce à ces films à succès, justement, je pouvais voir un petit peu les mises en scène du bonheur qui avaient une influence, c'est-à-dire que les gens allaient voir. Et j'ai sélectionné le cinéma plutôt que la chanson ou la télé, parce qu'en 1945, il n'y a quasiment pas de télé, tandis que les gens vont déjà au cinéma en 1945, hein, ils y vont même massivement, puisque dans les années 50, c'est plus de 400 millions de places de cinéma qui sont vendues chaque année, ce qui est quand même considérable. Et ils y vont un peu moins maintenant, mais ils voient quand même les films, ne serait-ce qu'à la télévision. Alors ça, du coup, ça m'a permis d'apprécier les représentations du bonheur. Pour essayer de savoir, parce qu'il y avait une autre partie du travail qui était, l'objectif, c'était de savoir si les gens avaient été heureux, tout simplement, et si oui, ceux qui les avaient rendus heureux, je me suis intéressé à deux types de documents. D'abord, des sondages, puisque depuis 1945, on va poser aux gens la question « Êtes-vous heureux ?» Et pour répondre à une autre partie de la question, vous évoquiez là, est-ce qu'il y a des critères objectifs du bonheur? Les chercheurs en sciences sociales qui travaillent sur le bonheur depuis le début du XXe siècle et qui sont très nombreux à travailler sur le bonheur depuis l'après-guerre, se sont rendus compte qu'en fait, la moins mauvaise manière pour essayer de savoir si les gens étaient heureux, c'est encore d'aller leur demander, d'aller faire, plutôt que d'essayer de définir a priori un bonheur et de dire « Ah non, vous n'êtes pas heureux parce que j'ai défini le bonheur et vous ne correspondez pas à mes critères. Vous êtes heureux. » Là, on se rend compte que ça ne marche pas. Il vaut mieux aller leur poser la question. Donc, pour avoir des gros échantillons et savoir le score moyen de bonheur, par exemple, en telle année ou en telle année, et pouvoir ensuite dessiner des évolutions, j'ai utilisé ces sondages. Et puis, pour essayer de rentrer plus précisément dans la manière dont les individus construisaient leur bonheur, j'ai justement utilisé ce type de témoignage plus qualitatif, soit de la correspondance, soit des journaux intimes, puisque l'association pour l'autobiographie permet de retrouver pas mal de journaux intimes. C'est une association qui justement collecte soit des autobiographies, soit des journaux intimes.
Alors Giuseppina Sapio, vous, votre parti pris a été de travailler sur cette question du bonheur mise en scène au sein de films de famille. Donc là, cette fois-ci, il ne s'agit plus de savoir quels sont les critères à partir desquels on peut juger de la qualité du bonheur d'une famille ou d'une autre, mais comment celle-ci se perçoit comme étant heureuse à travers ces films. Alors peut-être vous pouvez nous présenter ce que sont ces home movies et pourquoi vous les appelez home movies et non pas films de famille.
Bonsoir à tous, à toutes et à tous. Alors oui, je m'occupe de cinéma d'amateur, donc c'est une production française dans le cas spécifique de ma thèse, donc au sein de familles qui ont filmé et visionné leurs films, donc des films familiaux que j'appelle home movies pour un ensemble de raisons. Tout d'abord parce que, disons, c'est pour une question pratique, quand on parle de films de famille, en général, on est un peu perplexe, on se dit des films de fiction qui parlent de la famille, eh ben non, ce sont des films qui relèvent vraiment d'une dimension presque artisanale. Par ailleurs, si on pense aux films des années 60, ce sont vraiment des films qui ont été réalisés avec des caméras assez particulières, qui ont été montés à colle et ciseaux. Donc, de ce point de vue, il y a ce côté homemade movies, c'est-à-dire des films faits maison. Et en même temps, home, c'est en anglais, renvoie à la fois au foyer et à la famille. Pourquoi ? Parce que justement, ce qui est intéressant dans la lettre de l'ouvrier, par ailleurs, c'est marrant parce que c'est le titre d'un ouvrage, d'un texte de Virginia Woolf, une chambre à soi. Donc, l'importance d'avoir un espace privé, notamment pour les femmes. Pourquoi home ? Parce que ce sont à la fois des films tournés par la famille et visionnés dans le cadre de réunions familiales. Et en même temps, ce sont des films aussi qui ressentent vraiment des caractéristiques de la maison, ou même des expériences familiales que l'on fait, comme par exemple les voyages ou les vacances, comme on va le voir dans l'extrait que je vais vous proposer. Donc ce sont des films qui, en quelque sorte, sont imprégnés par les chambres de la maison, par le type de rituel qu'on met en place, par le type de discours que l'on fait à l'intérieur de cet espace, qui est plus que la maison elle-même, c'est le foyer. Et de ce point de vue, voilà, je me suis intéressée à des films réalisés à partir des années 60 en France. J'ai mené des entretiens et donc les films que j'ai analysés, ce sont à la fois des films analogiques, donc tournés en Super 8, et aussi des films numériques, donc filmés avec des tablettes ou des téléphones portables.
Et ce qui est fascinant dans votre travail, c'est que vous montrez que ce rapport aux home movies, c'est pas seulement des films qui interviennent à un moment de bonheur, que ce soit un mariage, une naissance ou un anniversaire, mais que c'est le fait de visionner ces films-là qui vont ensuite constituer un moment également de bonheur. C'est que ça marche dans les deux sens, c'est le bonheur du moment et le bonheur rétrospectif.
Voilà, exactement. C'est un peu comme dans Schopenhauer, la répétition, le fait que le plaisir est non seulement dans l'événement lui-même, donc le fait qu'il y ait une fête de famille et que l'on filme cette fête de famille, mais la répétition de l'événement lui-même, donc filmé dans les films, regardé avec la famille, et en quelque sorte ça recoupe aussi ce que l'on fait déjà quand on se réunit, c'est-à-dire répéter par exemple des anecdotes que l'on connaît très bien, mais le plaisir est justement dans le fait d'entendre à nouveau des histoires, parce que cette répétition confirme aussi les liens. Donc dans ce sens-là, le plaisir est vraiment dans la répétition, qui est aussi une confirmation de ce que l'on a fait et de ce qu'on est. Donc il y a bien évidemment des enjeux identitaires dans cette mise en scène, mais j'aime bien quand même que l'on considère que les films de les home movies soient des films à la fois transparents, dans le sens où ils affichent quelque chose, mais aussi très opaques, hein. Ils cachent des failles du bonheur, parce que si on parle de bonheur, on parle aussi de malheur. Donc
il n'y a pas l'équivalent inverse, c'est-à-dire des films qui, au contraire, on pourrait y penser, hein, qu'on voudrait garder les moments les plus difficiles de notre vie.
j'ai eu, par exemple, dans les entretiens que j'ai menés, j'ai eu certains qui m'ont dit, par ailleurs, c'est l'auteur du film que l'on va voir, donc ce père de famille qui aurait aimé filmer même les enterrements. C'est un rapport différent donc, à l'image, ça n'arrive pas très souvent. C'est vrai qu'on n'est pas porté à enregistrer le malheur quand il arrive, parce que justement, si le plaisir est dans la répétition de ce qui est bien, revoir un moment qui était troublant pour la famille ne peut que briser en quelque sorte les liens. Mais voilà, parfois, le malheur se cache quand même dans les mailles du film. Donc, on le perçoit parce qu'il y a eu un non-dit ou un mot un peu déplacé. Donc, le film affiche aussi ces troubles à l'intérieur du foyer, mais il faut aller les chercher.
Alors, vous nous avez amené un extrait pour nous montrer
oui.
le genre de film sur lequel vous
travaillez. Je vous fais juste une petite introduction. C'est un film tourné en 1966. La famille en question est une famille qui vient du sud de la France, donc de Menton. À l'époque, c'était le couple était un couple de le père de famille était maçon, la femme était femme au foyer, et ensuite, en fait, ils sont devenus commerçants et ils ont aujourd'hui, ils ont acheté un bar. Donc, le film, correspond au moment du passage d'un statut social à un autre. Donc, on voit un voyage en Espagne, donc les vacances. Mais on voit aussi la voiture qui avait été achetée. Donc, on revient un peu à ce que l'ouvrier disait. Donc, cette Mercedes que l'on voit tout au long du film. Et l'histoire est scénarisée par le père de famille. Donc, en gros, le voyage en Espagne est conçu selon une petite histoire. Donc, celle d'une petite fille qui est la fille du couple de parents qui décide de fuguer de chez elle. Et de l'autre côté, les deux parents qui font leur voyage en Espagne, mais en voiture. Et ils croise à chaque ville cette petite fille, mais il la récupère jamais, au point que c'est un peu troublant. Donc la jeune fille qui n'est plus une fillette maintenant m'a raconté un peu comment elle a vécu ça. Et la fin du film, c'est on voit la fillette qui rentre dans le coffre de la voiture, donc pour rentrer chez elle finalement à l'insu de ce couple qui n'est pas dans le film, le couple de ses parents.
Ah, les voyages.
Daríamos la vida, por ti daríamos la vida, si llegara la ocasión.
En plus, j'ai oublié de dire que c'est moi qui ai monté les petits extraits, parce que le film, à l'origine, dure 40 minutes. Donc, on a vu des petits bouts qui viennent du film original. Et j'ai essayé de saisir un peu les moments les plus intéressants, notamment celui de la voiture, parce qu'on voit à certains moments que le film est réalisé par le père de famille, ou sinon par la petite fille, ou sinon par la mère. Donc le père avait donné des indications très précises. Par ailleurs, c'est aussi la raison pour laquelle la petite fille aujourd'hui me dit voilà, parfois c'était un peu gênant de devoir à chaque fois être mis en scène ou se mettre en scène devant la caméra, parce que c'était systématique pour son père. Et en plus, il y avait ce film-là devait afficher en quelque sorte ce bien-être qui était un bonheur aussi matériel de la famille, comme par exemple on l'a vu dans le plan où il demande à sa femme de filmer le compteur pour montrer à combien il roulait avec sa nouvelle voiture. Donc comme la petite fille me l'a dit, c'était un moyen pour lui de véhiculer aussi son pouvoir, parce qu'on est dans les années 60 et que la figure du père de famille passe aussi par ce genre de production d'amateurs qui ne sont pas si anodines ou insignifiantes comme on pourrait le penser. Voilà. Donc oui, ce n'est pas du tout un film classique comme on peut l'entendre. Donc avec, y a bien entendu des maladresses, elles sont assez visibles, mais il y avait cet enjeu-là. On se met en scène, donc on double le plaisir de la vacance, le plaisir de la famille par la mise en scène du film et par le scénario que l'on invente.
Alors le film date de 66, hein, c'est ce que vous disiez. La lettre que j'ai lue, c'était 58, je crois. Mais dans votre livre, vous accordez une partie assez importante, une grande part de votre ouvrage est consacrée à cette période entre les années, des années 45 à 80, mais surtout 60-80. Pourquoi avoir choisi l'un et l'autre d'étudier cette période-là en particulier pour parler du bonheur, Rémi Pavin?
Bien, cette période est extrêmement importante à propos du bonheur parce qu'en fait, c'est ce que je montre dans l'ouvrage, hein, c'est la période au cours de laquelle le bonheur devient la valeur principale des sociétés, ce que j'appelle la conversion au bonheur ou le sacre du bonheur. En fait, schématiquement, avant, le bonheur, ce n'est pas un invariant anhistorique, ça a une histoire, le bonheur, hein, contrairement à ce qu'on pourrait comme ça penser d'emblée, hein, aux idées préconçues. En fait, le bonheur a une histoire. Il y a des tas de sociétés au cours desquelles le bonheur a été une valeur déconsidérée, dévalorisée. Il y a certaines sociétés au cours desquelles le bonheur a été valorisé, mais c'est certaines formes spécifiques de bonheur. Je pense par exemple au Moyen-Âge. Hein, le bonheur était remis dans l'au-delà. Il n'était pas question d'essayer d'être heureux. Il fallait essayer d'être vertueux, d'être pieux. Ou alors, dans d'autres circonstances, au XIXe siècle, par exemple, il fallait plutôt essayer d'être puissant. Le bonheur était associé à la mollesse, à la faiblesse. Et Flaubert nous dit, par exemple, que le bonheur est comme la vérole. Hein, il peut gâter la constitution. Et on a plein de citations comme ça, anti-bonheur, de discours finalement opposés au bonheur, qui subordonnent le bonheur à d'autres éléments, d'autres normes beaucoup plus légitimes. Et en 1945, on est encore largement là-dedans. Par exemple, l'aspiration au bonheur a connu un certain essor pendant le Front populaire, dans les années 30. Et puis, la Deuxième Guerre mondiale met un coup d'arrêt à la montée en puissance du bonheur, parce que l'interprétation pétiniste de la défaite comme conséquence du Front populaire, eh bien, bizarrement, cette interprétation pétiniste, elle ne disparaît pas, alors même que c'en est fini du régime de Vichy. Elle est diffusée sur de grandes échelles par des intellectuels assez médiatiques, je pense par exemple à Alfred Sauvy, et De Gaulle, hein, lui-même, veut 4 millions de beaux bébés. Il ne s'agit pas de dire on veut être heureux. Non, il faut remettre la grandeur de la France. Et progressivement, à partir de 1945, le bonheur prend une ascension, connaît une irrésistible ascension, pour paraphraser Brecht, hein, quelque chose où finalement il devient de plus en plus important, de plus en plus légitime. Et les années 60-70 me paraissent cruciales pour comprendre ce moment et ce passage à une société dans laquelle finalement le bonheur est encore assez secondaire, à une société où le bonheur est devenu la valeur principale, la norme auprès de laquelle les autres normes, les autres valeurs tirent leur légitimité. Parce qu'aujourd'hui, finalement, les autres règles, elles ne sont légitimes que si elles peuvent nous rendre heureux. Est-ce que je dois être puissant? Est-ce que je dois être pieux? Bon, bah, si la puissance va me rendre heureux, si la piété va me rendre heureux, très bien. Mais sinon, pourquoi?
On en revient quand même du coup à la difficulté de définir le bonheur. Les règles ne sont légitimes que si elles nous rendent heureux, mais alors comment est-ce que le bonheur est défini dans ce cas?
Alors, justement, une fois que le bonheur commence à devenir une valeur légitime, les différentes... Ensuite, le bonheur, ça ne va pas être quelque chose de monolithique. Il y a différentes déclinaisons du bonheur qui vont se constituer, un grand nombre de discours qui vont fleurir, et les différents discours sur le bonheur vont s'opposer les uns les autres. On va avoir un bonheur consumériste, qu'on va voir dans un certain nombre de films, et l'histoire de la voiture est assez représentative, hein, de cette force et de l'attractivité du consumérisme dans les années 60. Ce bonheur consumériste, d'ailleurs, il est porté au pinacle par les marchands et par les promoteurs eux-mêmes qui sont en train de fabriquer le consumérisme. Hein, ils ont trouvé l'une de leurs stratégies, c'est finalement de montrer et d'associer les objets au plaisir. Et comme le plaisir et le bonheur sont en train de devenir des valeurs légitimes, ça va leur permettre de mieux écouler leurs produits. Et d'ailleurs, l'argument principal des publicités aujourd'hui, et c'est le cas depuis les années 60, c'est en gros le produit que je vous propose va vous rendre heureux, hein, monsieur, madame, etc. Et donc, du coup, les années 60 sont vraiment la période importante. Et cette déclinaison, donc, va y avoir le bonheur consumériste, mais va y avoir aussi des bonheurs opposés au bonheur consumériste. Quand on pense aux choses de Georges Perec, par exemple, Les choses, c'est un roman qui met en scène une autre forme de bonheur que le consumérisme. Ou plutôt, c'est un roman qui met en scène l'absence de bonheur auquel aboutit le consumérisme, puisque Georges Perec explique bien que finalement le consumérisme, la consommation va seulement nous promettre le bonheur, mais que ces promesses ne vont pas être tenues. Hein, c'est très, très net dans la fin. Donc on a différents types de bonheur qui s'opposent les uns aux autres, et la société, les individus auxquels on propose finalement ces formes de bonheur vont ensuite pouvoir faire leur choix et aller vers telle ou telle direction. Donc les définitions restent subjectives.
Voilà, justement, ce qui reste à savoir du coup, quelle part du bonheur revient à un seul individu, à ce que lui choisit ou constate comme étant ce qui le rend heureux, et ce qu'on lui assène, ce qu'on lui demande de faire pour être heureux. Là, il y a les deux choses dans ce que vous venez de dire, une espèce d'injonction au bonheur, consommez donc vous serez heureux, et la façon, et c'est peut-être là plutôt le pan de votre travail, dont l'individu lui-même va se percevoir comme étant heureux. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, quand un individu va faire un film de ce qui lui semble être un moment de bonheur, il est peut-être tout autant sous l'emprise de ces injonctions. C'est qu'il ne se représente pas heureux autrement, peut-être que dans ces moments phares que sont le mariage, l'accouchement, l'anniversaire.
Absolument. Et par ailleurs, ce que Rémi disait était très intéressant par rapport justement au discours que l'on peut faire sur les idéologies le bonheur consumériste sous-tend. Donc dans le cas de la voiture qui était emblématique, ça m'a fait penser bien évidemment à la Citroën DS de Barthes. Donc cette DS vraiment venue du ciel qui tombait dans la vie des Français. Et c'était un peu le cas, autre chose, c'était une Mercedes, mais le principe était le même. Donc il fallait en quelque sorte adhérer à une vision de bonheur, au point que quand j'ai interviewé les membres de cette famille, ils m'ont dit, la fille m'a dit, mon père voulait que l'on soit heureux comme dans les films avec les familles américaines. Donc il y a bien entendu des modèles que l'on suit, des modèles qui viennent du cinéma de fiction par exemple, ou qui viennent des publicités, mais voilà, cette mise en scène n'est pas anodine, je le disais avant, parce qu'elle véhicule quand même des valeurs, parfois des valeurs de machistes, parce que les films de famille, les home movies de cette époque-là, donc des années 60-70, donc là, il est vraiment question de genre, je sais que c'est un thème un peu délicat, mais c'est intéressant de voir comment, à cette époque-là, les home movies étaient une manière, de la part des pères, d'afficher aussi leur statut, donc de pouvoir figer, en quelque sorte, l'image de leur famille, et une auteure américaine qui s'est justement occupée de films de famille à cette époque-là, entre les années 50 et 60 plutôt, elle disait justement que les pères de famille avaient cette fonction un peu de momifier leurs enfants et leurs femmes à l'intérieur des films. Donc il est vrai que le type de plaisir, de bien-être, de bonheur que l'on véhicule n'est pas naïf. Il a absorbé plus ou moins les valeurs de la société de cette époque-là, les idéologies même. Donc de ce point de vue, on est bien loin d'avoir des représentations qui soient juste subjectives et appartenant à une famille lambda. La famille lambda a quand même une culture, elle va au cinéma, elle a une histoire, mais elle est aussi insérée dans une histoire avec un H majuscule. Donc,
mais ça, est-ce que vous le voyez par exemple, si vous comparez un film des années 60 comme on l'a vu avec un film d'aujourd'hui, qu'est-ce qui change dans la représentation de ce bonheur?
Alors justement, certaines valeurs ont changé. Disons que ce qui était par exemple photographiable à l'époque ne l'est peut-être pas aujourd'hui, et à l'envers. Aujourd'hui, par exemple, on a les albums photos débutent avec les images de la grossesse. Alors, la grossesse n'a pas eu la même représentation au fil du temps. C'est-à-dire que la femme enceinte, ou du moins l'album photographique, ne commençait pas forcément avec les images de la grossesse de la femme, mais avec le cliché du bébé donc, qui venait d'arriver dans la famille. Donc, il y a des changements de valeurs sociales qui ont ensuite affecté les valeurs esthétiques, on va dire. Donc, de ce point de vue, oui, on peut, par exemple, voir comment ce pouvoir, par exemple, du père de famille s'est perdu au fil du temps. Aujourd'hui, voilà, je le disais tout à l'heure, j'ai par exemple interviewé une famille où les deux enfants de 5 et 6 ans réalisent leur propre film. Ils se filment entre eux. Donc on a des petits films de 20 secondes où il ne se passe strictement rien. Mais l'intérêt, c'est que ces films-là, dans la base de données, on va dire, de films de la famille, ils ont leur statut, ils ont leur place, alors qu'avant, c'était pour une question bien évidemment économique, parce que le matériel était assez coûteux, pour une question aussi de compétences artisanales, voilà, il fallait manipuler la pellicule, ce n'était pas une chose pour enfants. Donc aujourd'hui, il y a eu ce glissement aussi de valeur qui fait que un film de famille peut être un film tourné avec un téléphone portable ou une caméra ou une tablette.
Rémi Bavin.
Oui, je trouve ça très intéressant ce que vous évoquez, parce que d'un côté, effectivement, il y a l'aspect technique. Le Super 8, c'est quand même plus compliqué, alors qu'aujourd'hui, on a tous des téléphones, donc on peut se filmer. Mais il y a aussi un aspect qui est lié à l'évolution des normes et de la frontière entre le licite et l'illicite. Vous évoquiez la grossesse. À mon avis aussi, la grossesse, mis à part la Vierge Marie, c'est toujours la conséquence d'un acte sexuel. Et il y a quand même une licéité beaucoup plus importante et une diminution des règles de pudeur qui fait qu'on peut représenter la grossesse. Je pense, et d'ailleurs, et plus largement, la question, par exemple, des baisers et des embrassades, et où il y a aussi une évolution assez nette. Et je pense qu'on peut voir, on peut faire un parallèle, alors peut-être que vous pourrez me contredire si j'ai faux, hein, mais en tout cas, au cinéma, les règles de décence et de pudeur évoluent considérablement entre les années 60 et nos jours. Et est-ce qu'on peut faire sans doute un parallèle entre justement cette évolution dans les films qui sont proposés au public et puis cette évolution dans les films, justement dans l'appropriation par le public, par les individus, de ce qu'on va mettre dans les films.
C'est-à-dire, est-ce que le film officiel est un reflet d'un film officieux ? C'est-à-dire, est-ce que l'évolution des mœurs, elle est pareille
Je dirais plutôt l'inverse. Je dirais le film officieux est-il plutôt un reflet ? Je dirais que l'évolution du film officiel ouvre des portes aux individus. Et que du coup, les individus vont se sentir plus licites à filmer des moments qui auparavant étaient assez finalement rigides, momifiés. Vous évoquiez, il y avait le mariage, quelques grands moments de la vie, là, comme les photos de famille finalement, où on allait se faire tirer le portrait chez photographe. Après, quand on a une caméra, on va filmer le mariage, le déjeuner dominical. Enfin, je sais pas, peut-être.
Oui,
Puis progressivement, sous l'influence des films, peut-être que la corrélation est dans l'autre sens. Hein. On va s'autoriser à filmer et à montrer aussi d'autres éléments, hein, la grossesse, les amours, peut-être aussi simplement des moments qui sont moins codifiés. Ça, je pense que l'évolution technique, hein, il suffit de voir les jeunes qui se photographient en soirée en train de faire du binge drinking et autres, hein.
Alors, mais ça, justement, les jeunes n'ont pas attendu de voir des films de binge drinking pour commencer à en faire. C'est là où du coup la corrélation n'est pas forcément. C'est pas forcément un film officiel qui sort sur les écrans qui va avoir une influence sur ce qu'on va s'autoriser à montrer dans la vie privée.
Vous avez raison. Je pense que les deux fonctionnent. Je pense que d'un côté les films officiels doivent influencer les films individuels, et puis que une nouvelle pratique individuelle peut ensuite être transformée en film officiel.
Bah, il est vrai que d'un point de vue culturel, mais le cinéma est populaire, est un art populaire malgré lui, malgré nous ces temps-ci. Donc c'est vrai que il ouvre plus des portes à l'imaginaire collectif, donc il permet certaines choses, donc cette espèce de droit à la tendresse, hein, oui, je pense que le cinéma a pu aider les spectateurs à s'imaginer comme les familles que l'on voyait à l'écran, ou du moins comme les couples que l'on voyait à l'écran, mais après ça a été aussi le cas pour les publicités par exemple, ou la télévision. Peu à peu, je pense que d'un point de vue des normes sociales aussi, on a par exemple commencé à concevoir une image par exemple du père de famille qui était moins rigide. Donc le père de famille, mais je le vois par exemple aujourd'hui dans le cinéma de fiction italien, le cinéma contemporain, c'est un petit saut dans le temps et dans l'espace, mais c'est assez éloquent. Aujourd'hui, on ne voit plus le père de père patron, padre padrone et des frères Taviani dans les années 70. Aujourd'hui, on voit un père jeune, narcissique, seul, fragile, ce qui est presque agaçant pour nous. On perd un peu nos repères dans le sens, le père de famille italien, il a perdu ses traits rigides, presque granitiques. Et c'est aussi le cinéma qui véhicule cette image-là. Donc oui, je suis d'accord.
Mais ça, cette évolution du père de famille, elle est très nette dans le cinéma français des années 70. Par exemple, quand on pense aux films intimistes, à tous les films de Sauté, Piala, etc. Voilà, c'est quand même très net. Dans Vincent, François, Paul et les autres, par exemple, le personnage de Montand. Donc, je crois que c'est Vincent qui est l'industriel, qui finalement est un homme courageux, un macho, on peut le dire, qui progressivement ensuite va se retrouver dans l'impasse. Et le regard de Sauté est très net, c'est Montand qui est dévalorisé, parce que Montand justement n'a pas accepté de s'intéresser à ses sentiments, à son bonheur, et progressivement justement ces films intimistes vont créer l'aspiration au bonheur, vont fabriquer l'aspiration au bonheur.
Alors juste une chose quand même, c'est que vous avez l'air de présupposer l'un et l'autre que la mise en scène du bonheur passe par la mise en scène de la famille et du rôle du père qui va sans doute évoluer. Est-ce qu'on ne peut pas concevoir une histoire du bonheur, une mise en scène du bonheur qui ne se passe pas par la famille, qui ne soit pas celle d'un papa, d'une maman, d'un enfant ?
On peut en concevoir.
Ou alors est-ce qu'on peut pas être heureux s'il n'y a pas de famille ?
On peut en concevoir. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais si on s'intéresse à l'ensemble des discours qui sont publiés ou qui sont mis en scène au cinéma du bonheur, on se rend compte que quand même la triade des récits et des représentations du bonheur, c'est quand même famille, travail.
Vous ne savez pas dire qu'ils ont raison, si je peux.
Parfois même, je le regrette, mais parfois même patrie.
Je pense que ça dépend aussi du fait que parfois, quand on considère la famille, on pense, mais de ce point de vue, je peux être d'accord, ça peut être une illusion. C'est que le bonheur familial est peut-être ce qui s'approche le plus d'un bonheur authentique, alors que le bonheur, la réussite dans le travail est plutôt parfois connoté par des qualités négatives comme l'ambition.
Par qui ? Par la société ?
En général, par la société.
Ou c'est même, moins en moins vrai aujourd'hui quand même.
Oui, je trouve qu'après ça peut évoluer, mais peut-être le fait que l'on se rattache à une catégorie comme celle de la famille où normalement on est... Après, on peut évoquer le cas de Festen de Winterberg et là ça part en vrille.
On est en plein dans la famille là pour le coup.
On n'est pas vraiment dans le bonheur. Il n'y a plus de bonheur.
Mais ni seul d'ailleurs.
Mais je veux dire, voilà, peut-être dans la famille, on arrive à trouver le plus. On est plus proche d'une sorte d'idéal aussi de bonheur, donc de valeurs positives, alors que peut-être dans d'autres domaines, en s'éloignant un peu plus, les liens, on craint que les liens soient plus faibles ou moins... moins fort. Oui,
bah,
moins
de toute fort. Façon, je crois qu'on est forcément dans la famille puisque vous travaillez sur des home movies. Donc de toute façon, même si vous refusez le terme films familiaux, ça reste quand même plutôt dans le domaine de la famille. Mais après, c'est vrai que de toute façon, quand on s'intéresse au discours sur le bonheur, on arrive toujours au niveau famille. Et même quand on va demander aux gens, il y a des sondages, pour vous, c'est quoi le bonheur ? Et d'ailleurs, je pense que le public serait nombreux à dire oui, pour moi, il y a d'abord la famille. En tout cas, c'est les régularités qu'on voit dans les sondages depuis une cinquantaine d'années. Et c'est les ingrédients. Ensuite, quand on lit des journaux intimes, les journaux intimes vont parler des relations familiales que tissent les diaries.
Oui, mais pas toujours de point de vue positif, là, pour le coup. Les journaux intimes, à mon avis, ne donnent pas la version la plus positive des relations familiales.
Ils vont souvent parler de la famille. Ça va être l'un des thèmes, l'une des figures qui va être évoquée par les individus. Alors après, est-ce que c'est quelque chose d'objectif ou quelque chose de construit ? Bien entendu qu'on peut penser que c'est quelque chose de construit, qu'il y a une focalisation des discours et des attentions autour de la famille. Sans doute. Mais c'est quelque chose qui est construit parce que c'est très légitime. Et progressivement, il y a une légitimité à parler de la famille et de ses relations, alors que, par exemple, dans le bonheur, il est assez peu légitime de construire son bonheur à partir d'un ingrédient type vie sexuelle. On parle beaucoup de la révolution sexuelle, mais quand on lit des journaux intimes, même contemporains, finalement, l'ingrédient vie sexuelle n'entre qu'à titre relativement subsidiaire et secondaire dans les constructions du bonheur que font les acteurs. Comme si lorsqu'il réfléchissait, parce que construire son bonheur, c'est être dans un processus, on va dire, réflexif. Je réfléchis à ce qui fait pour moi le bonheur. Eh bien, l'individu qui se met dans ce processus réflexif, qui commence à construire son bonheur, en fait, il n'est pas complètement libre. Il n'est pas dans une pure subjectivité qui va réfléchir tout seul. Il y a un certain nombre de choses qui peuvent surgir dans sa tête si et seulement si elles sont licites ou avouables. Et par exemple, je ne sais pas, des plaisirs intenses que peuvent procurer, je ne sais pas, des stupéfiants, la sexualité, des perversions. Je ne veux pas associer les trois, hein, mais si vous voulez, l'individu va aller vivre comme des perversions et donc ne va pas accepter, alors même qu'éventuellement, lorsqu'il a eu cette activité, il a pu en recevoir un plaisir, il ne va pas construire son bonheur à partir de ce plaisir, parce que ce n'est pas quelque chose qu'il estime sain, licite, légitime.
Voilà, là, vous distinguez bien le plaisir du bonheur. Le plaisir sera à un moment donné quand le bonheur serait lors d'une construction plus durable.
Alors, durable, je ne sais pas. On oppose souvent plaisir et bonheur, souvent pour dévaloriser le plaisir au profit du bonheur. Moi, j'aurais tendance à penser, dans une certaine mesure, que le bonheur est un plaisir. Simplement, c'est un plaisir réflexif. Ce n'est pas, par exemple, le plaisir, imaginons... je mange un éclair au chocolat, ça me procure du plaisir. Ça, c'est un plaisir, on va dire, immédiat, qui est lié à la sensation. Finalement, le bonheur, c'est quoi ? C'est une forme de plaisir qu'on peut ressentir sans stimulus extérieur. Simplement, en fermant les yeux, en réfléchissant à l'éclair au chocolat que j'ai mangé hier, je suis capable de faire surgir dans ma tête une forme de plaisir qui, à mon avis, d'ailleurs, mais là, il faudrait accueillir un neurophysiologiste, et je crois qu'on n'est pas encore parfaitement au point en termes de bonheur sur cette science, bien que les progrès soient notables. À mon avis, le cocktail neurochimique qu'il y a dans ma tête quand je mange l'éclair au chocolat, il n'est pas très éloigné du cocktail neurochimique qui a lieu, qui apparaît lorsque je ferme les yeux et que je contemple ma vie, et finalement bah, j'en tire un certain plaisir parce que j'ai une femme, un travail... C'est ce que me disent les diaristes, hein, moi je n'invente pas. Ou alors au contraire, si j'ai d'autres normes, parce que je sais pas, je reviens du ski, ou alors je suis allé m'éclater dans une soirée. Enfin, tout dépend finalement de l'idée qu'on s'en fait, et de l'idée qui est plus ou moins légitime. Et la société, on parle beaucoup de libération, bah, y a encore des choses qui sont légitimes et d'autres qui ne le sont pas. Donc il y a des ingrédients qui peuvent être utilisés pour construire ce bonheur, et d'autres qui sont plus difficilement mobilisables.
Voilà, et puis il est vrai aussi qu'il faut considérer, par exemple dans le cas des home movies, il faut considérer aussi l'usage qu'on en fait, c'est-à-dire que pourquoi on est tellement concentré sur le bonheur familial, il y a bien évidemment une perspective future, c'est la transmission de ce bonheur, donc quand on se présente devant la caméra et qu'on dit voilà, aujourd'hui on est réunis pour fêter l'anniversaire de maman, on parle à un interlocuteur qui n'est pas présent, qui est la caméra qui, par métonymie, est la famille dans le futur qui regardera ce film. Mais dans le cas du bonheur, par exemple, on m'a pas mal demandé oui, donc tu t'occupes aussi de sex tapes. Le plaisir du noyau du couple dans la famille est aussi intéressant, mais après c'est là que je parle d'usage. Dans le cas des sex tapes, c'est vrai qu'il y a plutôt une sorte de plaisir qui est dans la performance, mais dans le sens que la caméra a un pouvoir dans ce sens-là d'outil. C'est plutôt une sorte de sex toy, donc qui permet d'enregistrer un moment de plaisir et de pouvoir éventuellement le exploité dans le futur, mais dans un cadre très précis, alors que dans le cas des films des home movies, disons plutôt classiques, donc avec des fêtes de famille, là on est plutôt dans une sorte de conscience collective qui est celle de la famille, qui injecte une identité déjà et des dynamiques et des rôles qui doivent être en quelque sorte réitérés par la suite.
J'ai juste une hypothèse peut-être à vous proposer, vous me direz ce que Merci. Vous en pensez. Peut-être que le bonheur est associé aussi à la famille, parce que le bonheur, et ce n'est pas simplement pour justifier le titre de cette rencontre, doit être mis en scène pour être pensé. C'est-à-dire que le bonheur, c'est une chose assez courante, on dit souvent que le bonheur, il n'y a rien de plus ennuyeux que des gens heureux. Et c'est pour ça qu'on ne lit pas des romans sur des gens heureux, qu'on ne voit pas des films sur des gens heureux qui ne seraient que heureux, où il ne se passerait rien. Et donc, il y a ce besoin de mise en scène, oui, à la fois pour le construire, vous parlez de construction d'un bonheur, mais aussi tout simplement pour essayer de le saisir, et peut-être pour le relancer. Et que ce soit les relations familiales dont on parle, mais aussi les relations amicales, sont autant de situations qui donne corps, qui donne forme à ce que nous pouvons ressentir ou nommer subjectivement le bonheur. Et c'est peut-être pour ça que c'est le meilleur moyen d'accès pour réfléchir au bonheur ou en faire l'histoire.
Tout à fait. En fait, je voudrais d'abord... Quand tu évoquais les sex tapes...
Tutoyez quand vous parlez des sex tapes.
Lors des réunions familiales, est-ce qu'on ne peut pas faire l'hypothèse que la caméra, finalement, elle est un sextoy de la même manière qu'elle est un sextoy dans les sextapes? Parce que finalement, lorsque le fait qu'on soit en réunion, bon, on pourrait s'ennuyer un petit peu, on est à un déjeuner dominical, bon, il y a le gigot, il est bon, certes, mais... Et tout d'un coup, on vient prendre une photo, ou on vient faire un film. Et finalement, le fait de faire un film vient pimenter le déjeuner. Là, clairement, en tout cas, dans le film, ça, c'est venu pimenter les vacances. Oui, donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette dimension? La caméra joue un rôle, et pas seulement un rôle de remémoration. D'ailleurs, est-ce que les gens regardent vraiment leurs films de famille? C'est un autre débat, hein, mais simplement. Alors, et pour répondre à votre intervention, c'est vrai que le fait d'ailleurs qu'il soit mis en scène, ils ont mis en scène du malheur. Une petite fille qui fugue dans une famille, c'est quand même un problème. C'est pas vraiment un bonheur. Tiens, la gamine, elle a fugué. Bon, ça me fait penser ce que je disais tout à l'heure. Ça me fait penser à un entretien entre Françoise Sagan et Jacques Demeure, au cours de laquelle Jacques Demeure demande à Françoise Sagan, mais alors si vous deviez écrire un roman du bonheur, qu'est-ce que vous feriez? Et Sagan est perplexe. Sagan est très embêtée parce qu'en fait, elle peut pas. Elle explique à Jacques Demeure qu'elle ne peut pas écrire un roman du bonheur, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui, je cite, entrave le bonheur. Donc en gros, un roman ou un film ne peut pas se construire uniquement sur du bonheur. Et ça, c'est particulièrement vrai dans le cinéma d'avant 1945 et des années 40-50. Progressivement, et on parlait tout à l'heure des films intimistes, on va essayer de véritablement faire un film du bonheur. Je crois qu'Agnès Varda le fait au début des années 60 dans un film qui s'appelle Le Bonheur, qui connaît une très mauvaise réception publique, qui a très peu de succès, et qui est d'ailleurs un petit peu compliqué, puisque ça raconte l'histoire d'un menuisier qui a une femme et qui trompe sa femme, qui est très heureux de tromper sa femme, et puis il avoue son histoire à sa femme. Ils font l'amour. Quelques heures plus tard, la femme se suicide, mais ce n'est pas vraiment dit dans le film qu'elle se suicide. Enfin, on va la retrouver morte à la scène d'après. Et finalement, le menuisier remplace sa femme par son amante, qui devient la mère de ses enfants. Les enfants l'appellent la maman ou presque. Tout est normal. Donc, ce qui fait que pour nous, aujourd'hui, ça paraît un petit peu choquant. Mais Varda, ce qu'elle veut montrer, c'est que c'est finalement le problème, ce n'est pas ce menuisier moderne, ce n'est pas l'amante qui est moderne. Le problème, c'est la femme qui se suicide. Elle la présente comme une sorte, passez-moi l'expression, une sorte de dinde qui n'est pas capable de comprendre que finalement son mari, alors là je vous parle du point de vue de Varda, qui n'est pas capable de comprendre que son mari, c'est simplement un bonheur en plus, quelque chose qui va ajouter à son bonheur d'avoir une maîtresse, mais il est très heureux dans son couple et dans sa famille initiale. Hein, donc progressivement, il va y avoir quelques films comme ça qui vont essayer de construire positivement le bonheur, mais ça ne va pas être la majorité des films. Hein, les films qui, encore aujourd'hui, crèvent le box-office, c'est des films d'action, c'est des comédies, et le postulat de tout film d'action ou toute comédie, c'est qu'il y a une situation initiale plus ou moins heureuse ou plus ou moins tragique, un élément de perturbation qui vient la perturber, et l'histoire qu'on va nous raconter, ça va être comment les héros vont avoir dominé cet élément de perturbation. Donc le bonheur, finalement, il va être comme dans les contes, dans les dernières minutes du film, vous savez, comme dans les temps modernes, avec cette grande image là, avec le couple qui part avec une grande profondeur de champ, cette grande profondeur de champ, avec le sourire des héros, signale, ça y est, c'est le bonheur. Mais finalement, le film s'arrête à ce moment-là.
Oui. En ce qui concerne la mise en scène, il faut dire aussi que, par exemple, par ailleurs, il y avait un ouvrage où il y avait également une contribution de Serge Tisseron. Donc, c'était un ouvrage dans une perspective psychanalytique. La fête de famille, par exemple, est déjà une mise en scène. On s'assoit toujours à la même place, on répète les anecdotes qu'on a déjà racontées. En quelque sorte, on refait des rituels rituel que l'on a déjà fait l'année précédente à la même date. Donc, moi, je dis plutôt, en ce qui concerne ma thèse, je soutiens plutôt l'idée que la caméra vient doubler une mise en scène. Il y a déjà une mise en scène, ce n'est pas la caméra qui en introduit une nouvelle. Elle double juste celle qu'on voit. Et justement, quand vous disiez... la caméra comme un sextoy. Moi, justement, dans ma thèse, je parle de la caméra comme, du moins en ce qui concerne le moment du filmage, donc la mise en scène des home movies, je parle justement d'une modalité ludique. C'est-à-dire que la caméra, mais ça, c'est dans les termes de Goffman, donc la caméra, elle introduit ce jeu qui a des règles précises ou non. J'ai considéré ce jeu plutôt comme un play en anglais, c'est vraiment jouer et jouer un rôle. Alors que dans les années 60-70, on pouvait plutôt parler de game, dans le sens un jeu bien réglé où il y avait un auteur qui était justement le père de famille et des règles bien précises aussi de mise en scène. Donc dans ce sens-là, oui, là, la fête de famille, par exemple, est déjà mise en scène, elle est doublée par la caméra et dans ce jeu que l'on fait, on se retrouve finalement à répéter des choses ou par exemple à parler à la caméra, donc en créant cette sorte de métacommunication qui fait que on insiste sur nos rôles et sur ce qui on est, ce qu'on est en train de faire à cette occasion-là précise.
Vous parlez même de métafamille.
Oui, bah ça c'est mon concept clé dans ma thèse, c'est-à-dire que je crois que au moment du filmage, donc au moment de la mise en scène et au moment du visionnage, c'est un peu moche, mais voilà, quand on regarde les films de famille de deux manières différentes, donc avec une modalité ludique dans le cas de la mise en scène et avec une modalité plutôt taxonomique, c'est-à-dire on décline un peu ce que l'on voit, on a un peu cette attention flottante face au film, face aux images, et on en profite, on les prend un peu à prétexte pour raconter des histoires, on arrive finalement à cette sorte de prise de conscience que je considère vraiment dans les termes plutôt de Piaget, donc comme une sorte de un faisceau de lumière qui arrive sur la famille par le biais des images et qui leur permet de concevoir ce qu'ils ont, comment ils agissent, quelles sont les dynamiques qui régissent la famille elle-même. Donc dans ce sens-là, je parle de métafamille parce que je crois que voilà, au moment de la mise en scène et au moment du visionnage, on fait des discours ou on fait des gestes qui sous-tendent cette prise de conscience que l'on a grâce au travail que l'on a fait ensemble. C'est un travail cognitif que l'on met en place.
Rémi Pavin, vous voulez rebondir sur cette... Alors, sur cette l'idée de mise en scène, justement, puisqu'on a, je pense qu'on n'a pas encore vraiment fait le tour de cette question-là, même y compris pour l'historien que vous êtes, quand vous réfléchissez à une histoire du bonheur, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, à la fois la seule façon, finalement, de penser le bonheur, c'est de voir comment il est mis en scène, comment il est orchestré, que ce soit du point de vue du désir d'un individu ou d'une injonction qui vient de l'extérieur. Mais est-ce qu'il y a une autre façon ? Est-ce que l'historien peut s'intéresser à autre chose que le bonheur qui serait mis en scène ? Vous parlez par exemple vous avez parlé de conversion du bonheur,
le droit
au bonheur.
La réponse est non, parce que nous, les historiens, on travaille forcément avec des documents qui nous sont parvenus. Et pour que le document nous soit parvenu, il faut bien qu'il y ait un biais, quelque chose qui un média. Et quand l'événement qui s'est déroulé devient et fixé par un média, il y a forcément une mise en scène à un moment. Donc de toute façon, on ne peut pas arriver aux manifestations les plus spontanées de joie, de plaisir, de bonheur qu'ont eu les individus. Il faut forcément que quelque chose vienne nous en parler. Donc forcément, il y a une mise en scène. Après, est-ce qu'on peut vivre le bonheur de manière philosophique ? Est-ce qu'on peut vivre le bonheur sans mise en scène et hors de toute mise en scène ? Ça dépend. Enfin, il y a des plaisirs qu'on peut vivre en dehors de toute mise en scène. Il y a des plaisirs, on n'avait aucune idée. Il y a des plaisirs surprenants, d'ailleurs. Je trouve qu'il y a un vocabulaire qui est assez net, enfin, une asymétrie de vocabulaire qui me paraît assez remarquable. Vous connaissez des tas de mots pour dire une mauvaise surprise, hein, un désenchantement, une déception. En revanche, il n'y a pas de mots pour dire heureuse surprise. On est obligé de faire une locution. Donc, mais dans ces moments d'heureuse surprise, comment ? Oui, si vous voulez, effectivement, mais il n'y a pas, le terme a changé considérablement de champ. Mais effectivement, une bonne chance, tout à fait, vous avez parfaitement raison. Mais donc, dans ces moments d'heureuse surprise, il y a certainement des plaisirs qu'on n'avait pas imaginés, dont on n'avait aucune idée, et qui peuvent nous arriver comme ça. Hein. Mais si on fait cette dissociation que j'essayais d'établir tout à l'heure entre, d'un côté, des plaisirs immédiats et puis ce plaisir secondaire réflexif qu'on peut appeler bonheur, effectivement, forcément, pour qu'il y ait ce plaisir réflexif, il faut bien qu'il y ait les plaisirs qui ensuite rentrent dans une construction, et cette construction, elle est mise en scène. À la limite, elle est mise en scène pour soi. Les récits de vie, les romans personnages, les choses qu'on se raconte, c'est des mises en scène qu'on peut se faire pour soi-même. On n'est pas obligé de faire une mise en scène pour soit un public, soit même un public très restreint comme la famille. Hein, parfois même, on se raconte une histoire, et l'histoire qu'on se raconte, c'est une mise en scène de l'histoire qu'on a vécue.
Et justement, dans le cas des home movies, il y a cette réflexivité sur deux niveaux, dans le sens on regarde les films et on réfléchit ensemble, donc on produit un discours qui est collectif, dans le sens il appartient à la famille, et après il y a un discours plutôt intime que l'on peut se faire en regardant par exemple les films, comme c'est le cas de la fillette quand elle m'a raconté comment elle percevait la mise en scène de la part de son père. Elle a eu ses propres pensées à elle, ses propres réflexions qui bien évidemment n'étaient pas cohérentes et pertinentes avec l'humeur qu'en réalité devaient dégager les films. Et il y a ce fil rouge qui lie les images et qui lie aussi les discours autour des images et qui ensuite devient un discours autour des personnes. Par exemple, quand je vous parlais de métafamille, qui est une notion théorique que j'essaie d'introduire en relation à ce sujet, j'en ai vu une application empirique et très éloquente quand j'étais allée interviewer les parents de cette fillette. Donc, j'avais déjà fait l'entretien avec elle, qui a aujourd'hui 57 ans. Elle m'avait parlé donc de la manière dont elle avait ressenti les films de son père. Donc, elle me parlait des films de son père, elle me parlait de son père, donc de ce qu'il y avait en lui qui pouvait éventuellement la gêner dans cette mise en scène, cette espèce de... Elle a défini elle-même un viol, parfois d'image. Par ailleurs, il avait fait un film qu'il avait, dont le titre était Le voleur d'enfants. Donc voilà, il y avait un petit quelque chose qui en elle résonnait comme une sorte de viol d'image. Et quand je suis allée faire l'entretien avec les parents, donc le père, lui, il m'a raconté les films de son point de vue. Je lui ai demandé, mais pourquoi vous avez mis en scène une petite fille qui décide de fuguer de chez elle, ou dans Le voleur d'enfants, une fille qui se fait voler par un méchant qui arrive à un moment sur la montagne et qui est sauvé par le chien. Donc je lui ai demandé pourquoi à chaque fois vous mettez en scène le danger. Et après, une sorte d'opération de bonheur où la fille est sauvée, où un des membres de la famille est sauvé. Eh bien, il m'a dit que c'était pour exorciser mes craintes, donc la peur que j'avais en réalité de perdre ma fille ou qu'elle tombe malade. Donc j'utilisais le cinéma. Après, c'est une analyse qu'il fait, il faudrait demander à un psy, mais je veux dire, ce qui est intéressant, c'est la manière dont il perçoit de manière presque instrumentale les images. L'image me sert pour exorciser quelque chose qui se passe dans ma tête ou dans mon esprit. Et en plus, à la fin, donc, j'avais eu donc, la fille qui m'avait parlé de son père qui m'avait parlé de sa fille. Et à un moment, j'étais... par ailleurs, ça arrive toujours quand on éteint le lecteur pour enregistrer l'entretien. Donc on voit cette photo qui était dans le salon, qui avait été prise par le compagnon donc, de la fille. Là, maintenant, ils se sont séparés. Le père regarde cette photo. C'était une photo en noir et blanc d'une, de certaines ruines qui sont dans un des qu'il a pris en photo dans un de ses voyages, et il regarde cette photo comme s'il était en train de regarder son gendre, et il dit voilà, lui il fait toujours des photos en noir et blanc avec des ruines, avec des choses que je ne comprends pas. Il y avait en quelque sorte un barrage que l'image affichait de son gendre, donc de quelqu'un qui en plus est étranger, entre guillemets, à la famille. Et ce blocage de l'image était aussi un blocage dans la compréhension de la personne, ce parcours empathique vers la personne elle-même.
Merci beaucoup à tous les deux. Peut-être qu'on va essayer de passer la parole à la salle, au public qui est resté nombreux. Merci. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main. Là, un micro peut circuler.
Bonjour. Alors, merci. Moi, c'est juste pour... parce que ce que vous venez de dire, là, cette espèce de phénomène d'exorcisme me fait penser au... Alors, je m'adresse plutôt à la philosophe qui en dira bien plus que moi, à Lucrèce et le Souavé Marie Magno, qui, ça me fait penser un petit peu à ça, de regarder les marins qui, de loin, peinent. Et puis, on est bien content, finalement, mais on n'en tire aucune jouissance perverse. Mais on regarde, et qu'est-ce qu'on est content d'être soit sur le rivage alors que les autres sont au loin. Voilà, ça me faisait simplement penser à ça. Et sinon, en termes méthodologiques, donc, j'étais passionnée par vos deux approches différentes, et je me demandais, bon, moi je suis chercheuse en littérature, donc je me demandais en termes méthodologiques, je sais qu'on peut de tout faire des documents, mais je me demandais si vous considériez sur le même plan, par exemple, vous avez parlé des choses de Pérec, une construction presque à double, enfin au carré, quoi. C'est pas parce que c'est Pérec, mais d'une construction littéraire qui réfléchit le bonheur et qui joue de cette mise en scène, des niveaux premiers des niveaux premiers, secondaires, etc. de construction. Et comment on fait quand on est historien pour justement faire avec cette diversité du matériau? Et alors moi je pose vraiment ma question en néophyte, qu'est-ce qui différencie l'histoire culturelle aujourd'hui, une approche d'histoire culturelle, d'une approche sociologique? Voilà, enfin, peut-être que parfois ça se rapproche vraiment. Et bon, je ne vais pas vous dire toutes les questions.
Il y en avait une pour vous. Il y a de fortes parentés, hein, entre l'histoire culturelle et la sociologie. Moi, d'ailleurs, j'ai fait des études de sociologie en parallèle de mes études d'histoire. J'ai mené des entretiens. Alors, pour le bonheur, les entretiens, je trouve que c'est moins pertinent parce que, en fait, comme je m'intéressais plutôt aux années d'avant, enfin jusqu'aux années 80, faire des entretiens, ça me permettait surtout d'avoir les ressentis et les idées du bonheur au moment où je faisais de l'entretien. Finalement, les souvenirs sont transformés, il y a un processus de reconstruction mémorielle, donc les entretiens, c'est peut-être ça la différence entre le sociologue qui travaille exclusivement, enfin surtout à partir d'entretiens, et l'historien qui travaille plutôt à partir de choses du passé. Mais après, pour répondre à votre question, Pérec et donc les ouvrages qui présentent des discours sur le bonheur, je les ai analysés comme un discours qui entrait dans la société, et comme un discours avec ensuite plus ou moins d'influence. Donc comme les choses, c'est je crois le prix Renaudot de 65, si je ne m'abuse, et c'est un prix, et puis c'est diffusé à des centaines de milliers d'exemplaires. Du coup, ça a été l'un des ouvrages que j'ai analysé qualitativement pour essayer de voir ce dont avaient pu prendre connaissance les individus vivant dans la société. Par contre, je n'ai pas analysé les choses de la même manière que j'ai analysé un journal intime, par exemple, ou des réponses à des sondages. J'ai analysé les choses en utilisant les choses comme un discours dont les gens prenaient connaissance. Et ensuite, justement, comme je m'intéressais à l'influence et à l'interaction entre les discours publics sur le bonheur et la manière dont les individus pouvaient se les approprier, j'ai essayé dans les journaux intimes, dans les réponses aux sondages, etc., d'essayer de voir le lien entre ce qu'avait dit Pérec et les réponses de mes sondés ou ce qu'ils racontaient dans leurs journaux intimes. Et d'ailleurs, il y en a. Il y a des liens dans les journaux intimes postérieurs aux choses. Il y a un certain nombre de références explicites aux choses. Et on sent que la lecture qu'ont pu faire les diaristes les a influencés et a influencé leur manière de concevoir le bonheur. En termes rhétoriques, je ne sais pas, mais en termes historiques, c'est des choses dont prennent connaissance les acteurs vivant dans la société. Après, ils ne vont pas leur accorder à tous le même poids. Donc par exemple, si je m'intéresse à une chanson, je sais pas, il y a de la joie par exemple, ou quelqu'un qui écoute une chanson, la radio, éventuellement fredonne la ritournelle, il va pas être de la même manière convaincu que lorsqu'il aura lu, je sais pas, un manuel de philosophie, quand il aura lu Alain, Les propos sur le bonheur par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais après, s'il a écouté 10 chansons qui lui disaient « Le bonheur est là », et qu'il a lu un ouvrage qui lui disait « Le bonheur est plutôt là », après, dans sa tête, c'est lui qui va arbitrer. Et je ne sais pas lequel aura le plus de poids. Est-ce que ça va être les 10 chansons, les 200 publicités ou le manuel de philosophie, finalement ? Et tout ça va se mêler dans sa tête et ça va aboutir ensuite à... Vous voyez ce que vous comprenez ? Tout à fait, mais je voulais pas trop rentrer dans des concepts parce que je voulais parler pour... voilà. Mais on est complètement d'accord que le bonheur, en tout cas les discours sur le bonheur sont performatifs. Si je crois que le bonheur c'est de manger un éclair au chocolat, lorsque je vais manger un éclair au chocolat, il y a des chances que je sois plus heureux que si je me ne le disais pas avant. Le bonheur est juste... le performatif, quand je mange l'éclair, je suis vraiment content. Hein. Ah, je veux dire, c'est pas seulement un fantasme, j'aime l'éclair au chocolat. Hein, et donc le fait de croire... D'ailleurs, je pense que c'est là la force des ouvrages de développement personnel. C'est que le performatif, ça existe. Quand le juge dit la séance est ouverte, la séance est vraiment ouverte. Hein, et quand je me potentialise et que je me dis je suis heureux et je vais mieux aujourd'hui qu'hier, eh bien ça va avoir une certaine efficacité. C'est le fond de commerce.
Ouais, à savoir si là on atteint le bonheur comme ça ou le
Les effets placebo, les gens qui prennent des pilules avec de la farine.
C'est pas ça qui rend heureux. Ça peut faire se sentir mieux, mais ça ne conduit pas forcément au bonheur. Enfin, ce serait une autre discussion.
Là, ce serait une autre discussion. Mmh.
Hein, et mais... après, moi, je voulais juste ajouter que oui, on est dans la performativité, mais je n'aime pas quand même que l'on réifie. Les images dans le sens ce sont des objets dans la maison, ce sont effectivement avant c'était les bobines, maintenant c'est complètement dématérialisé et en plus ça a des enjeux, mais ce n'est pas que l'image, le film, une fois qu'il est fait, qu'il a cette performativité, cette dimension elle est déjà présente au moment de la mise en scène. Quand le film est in fine, il n'est pas encore présent, il se fait. Et là, déjà, on commence à travailler ensemble pour cette dimension de... Oui. Oui, mais pas que au moment où le film existe et est présent en tant qu'objet.
Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps ? Oui. Monsieur, bonsoir.
Oui, d'abord, si vous avez l'adresse d'un bon pâtissier, vraiment. Pour les...
je connais un très bon boulanger, oui. Ah, bah, Montreuil.
Je suis tout à fait d'accord avec le côté, ce que vous avez appelé le côté réflexif du bonheur, que ce soit personnel ou interpersonnel. Mais en tant qu'historien, c'est plutôt à vous donc je m'adresse. Qu'en est-il du bonheur collectif ? Le bonheur conçu comme l'horizon d'une collectivité, laquelle aussi peut s'organiser en fonction de cet horizon. Bon, je pense bien entendu à toutes les entreprises, enfin tout ce qui vient du grosso modo, pour parler vite, du XVIIIe siècle tout ce qui s'en est suivi. Alors c'est peut-être un sujet trop large, je crois,
mais c'est un sujet qui appellerait des développements.
Mais dans les années, enfin dans la période qui vous intéresse, ça quand même.
Bien sûr, il y a des dimensions collectives qui sont tout à fait essentielles. Dans les représentations du bonheur, la dimension collective est importante. Hein. Depuis le XVIIIe siècle, effectivement, avec tous les discours des Lumières, il y a eu une thèse d'histoire, d'ailleurs, un des rares travaux d'histoire sur le bonheur, c'est une thèse de Mozy sur la littérature du XVIIIe siècle, j'imagine que vous faites référence à ça. Effectivement, il y a, dans les discours des Lumières, il y a beaucoup de représentations collectives. L'une des spécificités du XXe siècle, c'est que les représentations collectives sont intégrées par l'individu. Il y a une forme d'individualisation des représentations collectives. Mais ça ne veut pas dire, et j'insiste là-dessus, ça ne veut pas dire que les idéaux du bonheur sont purement anomiques ou individuels ou égoïstes, voire égotistes. Vous voyez ce que je veux dire ? Hein ? Dans la manière dont les gens s'imaginent le bonheur, et dans les actions qu'ils décident pour être heureux, pour essayer d'être heureux, dans les chemins dans lesquels ils s'engagent, dans leurs pratiques, les dimensions collectives, la dimension de la relation à l'autre, on parlait de la famille, est c'est quelque chose de collectif quand même, puisque c'est dans une relation à l'autre. Et j'imagine que vous faisiez référence à plutôt des idéaux politiques, de liberté, de choses comme ça. On voyait dans la lettre qui était citée en ouverture, le pays pas trop fasciste, la liberté, c'était quelque chose d'important. Et les dimensions collectives dans les années 60, elles ont été portées au nu par exemple, je pense aux communistes. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que, par exemple, les communistes parlent très peu du bonheur. Parce que le bonheur pour les communistes, c'est quelque chose de petit bourgeois. Et parce que, en plus, le bonheur. Mais Barthes est un représentant, enfin, je veux dire, il est influencé par le marxisme à cette époque.
Oui,
et,
non, mais dans le sens.
Et c'est pas lui qui invente. Enfin.
Non, mais quand il dit que le mythe communiste ne peut pas exister, c'est parce que justement, on est du côté de l'opprimé, on ne peut pas entendre.
Voilà, parce qu'en fait, le bonheur, ce sera le bonheur des lendemains qui chantent. Et en fait, même si on analyse précisément le discours communiste, on se rend compte qu'entre 45 et 47, c'est-à-dire après la libération, au moment où les communistes sont en pouvoir, eh bien, les communistes commencent à essayer de produire des discours sur le bonheur de manière positive, c'est-à-dire de pas seulement le repousser au lendemain qui chante. Et pendant 2 ans où ils sont au pouvoir, il y a des films, par exemple, des films de propagande pour les élections municipales de 1947, qui montrent des ouvriers heureux dans les banlieues communistes. Et à partir du moment où ils sont évincés du gouvernement en mai 47, c'en est fini. Les communistes décident qu'ils ne parleront plus du bonheur parce que justement pour susciter l'engagement, c'est quand même il faut se battre dans le monde communiste pour justement faire arriver la révolution et le lendemain qui chante. Et donc si on doit se battre, c'est parce qu'aujourd'hui le monde est malheureux. Et en plus, au cours de la lutte, et là on voit très bien l'opposition entre dans les années 60 entre la CGT et la CFDT, la lutte doit être héroïque. Hein, l'ouvrier communiste, c'est pas un jouisseur qui va vaguement lutter pour le peuple. C'est un martyr qui doit se sacrifier pour une cause et c'est seulement demain. Finalement, il y a une forme de proximité entre des thématiques qu'on peut dire doloristes, qu'elles soient communistes ou catholiques, qui supposent le bonheur dans un au-delà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question.
Dernière question.
Bonsoir, merci pour vos interventions. Je me permets une question intime. J'aimerais savoir si votre vision du bonheur a changé pendant et après vos recherches et qu'est-ce qui a changé.
Qui souhaite répondre?
J'aimerais avoir les réponses des deux personnes.
S'il vous plaît.
Personnellement, je me suis posé pas mal de questions, on va dire, avec ma recherche. Ça a été ma petite psychanalyse, hein, ça c'est clair. Déjà parce que je me suis intéressée quand même à un sujet qui est lié, bien évidemment, à mon histoire personnelle. Je veux dire, je ne suis pas avec ma famille puisque je suis en France. Donc déjà, il y a ça c'est de la psychanalyse à 2 balles. Est-ce que la vision du bonheur, ma vision personnelle a pu changer face aux images? Je n'ai jamais fait de film de famille. J'en ai eu envie justement en faisant ma thèse. Enfin, dans le sens, moi je suis partie avec cet intérêt pour les films de famille. Sans avoir d'image personnelle, ni de mon père, ni faite par mon père ou par d'autres membres de ma famille, parce que chez nous, en plus dans le sud d'Italie, on appelle plutôt un photographe professionnel. Donc, et là, ce n'est pas le même type de représentation, parce qu'il y a bien évidemment une transaction financière qui passe, donc on est un peu plus formel. Donc il n'y a pas cet enjeu-là identitaire, ou du moins, c'est très difficile d'aller le chercher. Donc ma vision du bonheur a changé, je ne sais pas, je demanderai à mon psy, mais certainement ça a changé ma vision de la représentation du bonheur. J'ai envie d'avoir des images parce que j'en connais maintenant le pouvoir, dans le sens où je ne pensais pas qu'il pouvait arriver si loin, et là maintenant que je le sais, j'ai presque envie de, voilà, de faire mon auto-analyse à partir de ces images-là. Donc,
vous préférez les éclairs au chocolat maintenant ou avant d'avoir écrit le livre?
Encore plus maintenant. Oui, je dirais que ma représentation du bonheur a changé. D'abord, j'essaie de faire mentir Aragon. Aragon dit « qui parle de bonheur a souvent les yeux tristes ». Ce n'est pas mon cas. D'abord, j'ai choisi ce sujet à un moment où j'étais plutôt heureux. Et je dirais que je suis quelqu'un d'assez heureux. Vous m'avez posé une question intime, je vous réponds de manière intime. Évidemment, oui, moi j'ai commencé ma thèse en 2005, je l'ai soutenue en 2010. Donc déjà, forcément, l'évolution, il y a une évolution, je pense, spontanée. Hein. Notre conception du bonheur change, donc déjà, ça a changé. Et je pense que ça a été hâté, parce que le fait de lire des discours sur le bonheur, d'essayer de voir un petit peu tout ce que les gens avaient pu faire, pu voir, ça donne des idées, tout simplement. Quand je lisais, je suis un être humain, comme tout le monde, je n'ai pas de définition objective du bonheur. En plus, je ne suis pas philosophe. Donc moi, j'ai pris le bonheur un peu comme un sac. J'essaie de voir de quoi les individus avaient rempli le sac, ce qu'ils avaient mis dedans. Donc à chaque fois qu'il y avait des gens qui mettaient un nouvel ingrédient, je me disais, ah oui, peut-être c'est bien, tiens, faudrait que j'essaie. Donc effectivement, ça, forcément, ça a joué.
Acheté une Alfa Romeo Sprint.
Oui, et puis une grande bibliothèque. Et ça vous a rendu plus heureux ? Moi, je dirais que ça m'a rendu plus heureux. Ouais.
Est-ce que c'est en travaillant sur le bonheur qu'on devient plus heureux ? Ça, c'est une vraie question.
Le fait d'avoir achevé, il y a quand même un bonheur de la réussite. Là, d'avoir publié un livre, de parler devant vous, ça me rend heureux. Je suis très narcissique, je suis très heureux.
Une dernière question, peut-être, dans la salle ? Ouais, là-haut.
Bonjour, donc je m'appelle Mathilde, je suis la personne qui a travaillé sur le film de Giuseppina. Donc je travaille quotidiennement au contact de ces films. Et en fait, ma question va un peu à vous trois, et spécialement à vous, Madame Vendrette. J'ai l'impression que la plupart du temps, il y a deux temps. Il y a le temps où le film se fait et le temps où on va le voir. Mais également, en fait, ce que ça décrirait pour moi, c'est est-ce qu'on n'a pas besoin que d'autres personnes que nous-mêmes ne valident la question du bonheur ? Comme par exemple, de plus en plus aujourd'hui, quand on va mettre nos photos sur Facebook et regarder le nombre de likes, etc. Parce qu'en fait, on ne serait pas capable nous-mêmes d'envisager ce que c'est que réellement le sentiment du bonheur.
La question, c'est de savoir, est-ce que cette mise en scène du bonheur n'est pas une manière de valider ce bonheur, ce qu'on ne s'autorise pas à le...
Est-ce qu'on a besoin de l'approbation d'autrui ? D'autre part, ce qui est intéressant quand vous parliez du film de famille directement lié, qui serait donc le meilleur exemple du bonheur, ce n'est pas forcément le cas, puisque dans le cas du film amateur, il y a énormément de films qui ne sont pas concernés par la famille. Ça va beaucoup, beaucoup plus loin que ça. La question que je me posais, c'est est-ce que finalement, est-ce que ce n'est pas le spectateur qui fait le bonheur ?
Oui, c'est la question de savoir dans quelle mesure est-ce que celui qui se pose la question de savoir s'il est heureux ou non, a les moyens d'y répondre. C'est-à-dire, est-ce qu'il peut y répondre indépendamment du regard, non seulement qu'on porte sur lui, mais que lui-même porte sur lui-même à travers le regard des autres. Puisque moi, effectivement, il me semble que, d'ailleurs, en travaillant sur les travaux de Giuseppina et de Rémy, c'est cette question-là qui me revenait sans cesse. C'est-à-dire, le bonheur, tout le monde veut le bonheur, personne ne peut arriver à le définir. Et ça, c'est quand même un problème. Qui est loin d'être négligeable, parce qu'après on peut sonder effectivement, savoir comment les gens définissent leur propre bonheur ou à quel moment est-ce qu'ils sont heureux, mais ce sont des définitions changeantes qui correspondent à un moment donné, à une classe d'âge particulière, dans un pays donné, à une période historique donnée. Ça fait beaucoup de contingences qui sont autant de raisons qui empêchent de proposer une définition de ce que serait le bonheur. Mais c'est ça que je trouve fascinant, moi, dans la question du bonheur. C'est ce que dit Pascal, hein, c'est que tous les hommes aspirent au bonheur, y compris celui qui va aller se pendre. C'est-à-dire que le fait de vouloir être heureux, pour un peu reprendre votre question, madame, ne rend pas forcément heureux, c'est-à-dire que ne conduit pas forcément à une vie heureuse. En revanche, il y a un constat qui est clair, c'est que la plupart des gens, même là on ne peut pas généraliser de manière universelle, disent vouloir être heureux, y compris ceux qui ont la posture, comme c'est le cas de Flaubert, qui identifie le bonheur à la vérole, comme c'est le cas de tous les cyniques et nihilistes que vous pourrez trouver autour de vous ou dans les livres, donc y compris ceux qui considèrent le bonheur comme étant un idéal bourgeois ou qui finalement ne les intéresse pas. Mais dans ce cas, alors pourquoi reste-t-il en vie ? Le bonheur, ça peut être le travail, ça peut être, on trouve une satisfaction dans la souffrance, même si on indexe le bonheur sur le plaisir. Il y a un plaisir à vivre une grande tristesse, par exemple. Donc si on élargit, si on prend en compte cette plasticité du terme de bonheur, alors on ne peut que faire le constat de son omniprésence, mais aussi de l'impossibilité à le nommer. Et c'est ce qui fait qu'à mon sens, les personnes les mieux à même de parler du bonheur, indépendamment des travaux universitaires dont on a parlé ce soir, et qui sont extrêmement stimulants intellectuellement, mais finalement, ce ne sont peut-être pas ces disciplines-là, ni même la philosophie, mais c'est ce qui est l'ordre de la création littéraire, que ce soit le cinéma, enfin la création, que ce soit le cinéma, la littérature ou la poésie, ce qui est l'ordre d'une forme de description, parce que ce n'est pas normatif. Voilà, c'est ce qui me semble, ce qui permet de saisir au plus près l'intérêt de ce terme, en fait. Voilà.
Et je tiens juste à dire que Mathilde a été mon instrument de bonheur, parce que c'est elle qui m'a
permis de connaître les familles, la plupart des familles d'amateurs.
Si on parle d'instruments de bonheur, c'est moi qui vous remercie alors tous les deux ce soir et à vous tous d'avoir été présents. Merci à tous et bonne soirée.
Merci.
Alors je vous rappelle, pour ceux que ça intéresse, que le livre de Rémi Pavin est en vente à la librairie Flammarion du Centre, qui est ouverte ce soir jusqu'à 23h. Voilà.